Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer ce débat avec Pierre Lemaître, l'auteur du roman paru en 2013 « Au revoir là-haut », que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui vient d'ailleurs de paraître au livre de poche. Pierre Lemaître va parler de son livre et puis ensuite on aura une discussion, la parole à la salle pour engager le débat à l'issue de cette présentation. Je lui passe la parole.
Merci, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les copains de Lutte Ouvrière de leur accueil, parce que je suis très, très heureux d'être là, je suis très heureux d'être invité. Donc voilà, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous. On me demande de parler de mon livre et j'ai pas trop envie de le faire. Si vous voulez, si le copain il avait posé au moins une question d'amorce, je serais moins embêté. Mais là, il va parler de son livre et je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Alors comme je ne vais pas lui mettre la faute sur lui, je vais quand même essayer de meubler un peu. Mais je trouve que ce qui serait intéressant, je reste debout, c'est pas par arrogance, hein, mais c'est parce que on est assis assez bas là et puis que vous allez pas me voir. Alors c'est pas très agréable, quoi. Donc, mais c'est pas une position dominatrice, hein, c'est ça que je voulais. Voilà, je voulais vous dire. Non, je pense que le mieux, c'est peut-être qu'on ait un peu de dialogue sur ce livre. Peut-être quand même que les deux ou trois choses que je peux dire sur ce livre, c'est que... alors, une première chose, c'est que je ne suis pas historien. Donc, si on a un dialogue, là, tout à l'heure, s'il y a des questions... c'est toujours un moment très, très difficile, le moment des questions, parce que c'est le moment où, quand il n'y a pas de questions, on se dit on était emmerdant comme la pluie, personne n'a rien à dire. C'est un moment toujours qui met le conférencier très mal à l'aise. Bon, enfin, si vous avez la gentillesse d'avoir au moins deux, trois questions, voilà, vous pouvez les préparer, hein, c'est ça. J'ai toujours un peu de mal à répondre aux questions concernant le problème historique de la Première Guerre. Pourquoi ? Parce que moi, mon boulot, c'est d'être romancier. C'est-à-dire, je suis simplement un gars qui raconte des histoires. Alors évidemment, j'ai une responsabilité sur ce que je dis et sur les thèmes que j'aborde, mais je ne les aborde pas en historien. Par exemple, cette Première Guerre mondiale, je m'y suis intéressé. On pourra tout à l'heure, si vous voulez, dire un petit peu pourquoi ce thème-là m'a intéressé. Mais il y a un certain nombre de questions qui relèvent vraiment de l'histoire et qui relèvent d'une expertise. Et le fait d'être romancier, et même un romancier primé, ne me donne pas une expertise historique. Et je ne vois pas pourquoi je prendrais la place de gens qui ont étudié les phénomènes, enfin qui sont des experts, des spécialistes du domaine. Moi, j'ai écrit quelque chose qui se passe dans l'après-Première Guerre mondiale. Je pense que je n'ai pas fait, j'ai pas violé l'histoire, comme disait Dumas. Vous vous rappelez, hein, Dumas disait, oui, j'ai violé l'histoire, mais je lui ai fait de beaux enfants. Alors, j'espère que je lui ai fait un enfant pas trop vilain, mais je ne prétends pas, au savoir historique. C'est pas mon sujet. Alors, je vous parlerai éventuellement, si ça vous intéresse, de ce que j'appelle l'illusion romanesque. Hein, et de la manière dont romanesquement c'est intéressant de parler de l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, vous m'en voudrez pas, mais s'il y a des questions très historiques sur les causes de la Première Guerre mondiale, souvent je botte en touche sur ces choses-là. Non pas parce que j'ai pas mon idée, mais c'est parce que mon idée ne vaut pas plus que la vôtre. Si j'avais un degré d'expertise, je pourrais dire, bah voilà, j'ai une opinion qui importe parce que j'ai fait 30 ans que j'étudie ce truc-là et je peux vous dire deux ou trois trucs que je crois intéressants. Mais là, en l'occurrence, j'ai finalement sur la question historique, j'ai pas beaucoup plus de légitimité à parler que n'importe lequel d'entre vous. Ça ne nous empêche pas d'avoir un dialogue sur cette Première Guerre, mais ça ne dérangera pas. Mais à la condition que je ne passe pas pour un référent, ce que je ne suis pas. Voilà. Je voudrais faire juste un tout petit sondage. Il y a des gens qui l'ont lu ici, le bouquin, ouais. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, je ne vais pas faire l'appel. Hein. Et je ne rembourse pas le livre. Hein. Mais... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est parce que s'il y avait eu personne, je me serais dit, bon, les questions, ça va être mal parti, et donc j'aurais meublé pendant trois quarts d'heure, voyez, en évitant le gouffre du moment où on attend les questions et où on n'en a pas. Ça vous embête si on commence tout de suite par dialoguer plutôt que de m'écouter jacter comme ça, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. On va donner un micro, si tu veux bien, aux gens. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se manifeste. Alors normalement, j'offre le premier livre à la première personne, hein, parce que...
Vous en avez parlé un peu, mais je sais que vous avez écrit jusqu'à maintenant surtout des polars.
Ouais.
Et justement, je me demandais pourquoi tout d'un coup vous vous étiez lancé dans ce genre de roman et pourquoi la Première Guerre mondiale.
D'accord. Alors, il y a deux questions. Pourquoi moi, c'est vrai que je viens, vous avez tout à fait raison, je viens du polar. J'avais écrit 6 ou 7 romans policiers, des thrillers, y compris des polars sociaux comme Cadre Noir qui parle du chômage des seniors. Et j'ai changé pour Au revoir là-haut, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je veux dire, à l'origine, Au revoir là-haut, c'était une histoire policière. J'avais imaginé écrire ce qu'on appelle un polar historique, c'est-à-dire un roman policier avec une vraie intrigue policière qui se passerait dans les années de juste après-guerre. Et puis, ça marchait pas bien. Ça marchait pas bien. Je savais pas pourquoi le texte ne fonctionnait pas bien. J'ai travaillé des semaines et des semaines sur ce truc, ça marchait pas bien. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, il a fallu que je réfléchisse, que je prenne un peu de recul pour me dire, bah oui, ça marche pas bien parce que cette histoire, fondamentalement, n'est pas une histoire policière. En fait, une histoire policière, elle a un ADN. Il y a un code génétique de l'histoire policière. Et si l'ADN n'est pas là, l'histoire n'est pas policière. C'est autre chose, ça peut être vachement intéressant, mais c'est pas un polar. Et donc, je me suis rendu compte que mon histoire n'était pas vraiment une bonne histoire pour un roman policier. Et donc, j'avais 2 solutions. Soit je gardais mon histoire et j'écrivais autre chose qu'un roman policier, soit je voulais écrire un roman policier, il fallait que je change d'histoire. Alors, j'avais bossé sur cette histoire déjà pendant pas mal de temps. J'avais mes personnages, j'avais, je crois, une bonne histoire. En tout cas, ça me faisait bien saliver. Et donc, du coup, j'ai dit, bah tant pis, ça sera pas un polar. Alors, ça, c'est le calcul conscient. Et puis, il y a peut-être aussi, pour aller plus loin dans la question... peut-être aussi un réflexe inconscient, c'est que, enfin, ou plus ou moins conscient, c'est que le genre policier est ce qu'on appelle un sous-genre en littérature. Alors sous-genre, ça a tout de suite l'air d'un seul coup de faire partie d'une minorité opprimée, hein. Mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que littérairement, le roman policier n'a pas vraiment acquis ses lettres de noblesse. On le dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, les critiques disent volontiers que le roman policier a acquis aujourd'hui une légitimité littéraire, mais il n'y a pas un romancier de roman policier à l'Académie française, même si Menon n'y est pas rentré. Le prix Goncourt n'a jamais été donné à un roman policier. On est 2 à venir du roman policier et avoir eu le prix Goncourt, c'est Jean Vautrin et moi, mais on l'a eu parce qu'on n'a pas écrit un roman policier. Hein, oui, ça mène à tout, mais à condition d'en sortir. Hein. Et en fait, il y a quand même un ostracisme. Il y a même un journaliste qui a écrit Pierre Lemaitre le prix Goncourt pour son premier roman. C'est-à-dire qu'il supposait que les 7 précédents n'étaient pas des vrais livres. Mais le truc, bon. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un calcul un peu inconscient de recherche de légitimité. C'est-à-dire, j'avais sûrement envie de faire comme font d'autres de mes camarades, de dire, je sais faire aussi autre chose et je peux vous montrer que je suis un vrai écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il me semble qu'il y avait un petit peu de calcul de ma part, mais j'en rougis pas, hein. J'en rougis pas parce que je viens d'un endroit de la littérature qui n'est pas très très légitime et il ne me paraît pas honteux de réclamer la légitimité et d'essayer de prouver que cette légitimité serait bien fondée. Donc, je ne rougis pas de ce que j'ai fait, hein. Mais j'essaye de rendre compte le plus honnêtement possible des raisons pour lesquelles j'ai fait autre chose. La première, c'est que ça a glissé sans qu'on aperçoive et que mon inconscient a dû me dire que ce glissement était plutôt favorable. Vous voyez, c'est un petit peu ça le calcul, quoi. Vous avez posé la question pourquoi la guerre? Alors là, c'est une question, je vais essayer d'aller rapidement. Cette guerre a toujours fait partie de mon panthéon personnel. C'est-à-dire, j'avais lu, moi, étant jeune, quand j'avais 16-17 ans, les premiers livres que j'ai lus sur la guerre, c'était ce qu'on appelle les livres de ce qu'on appelait les romanciers combattants. Alors, les romanciers combattants, ça désigne une classe de soldats, de types qui ont 25 ans pendant la guerre de 14 ou même parfois 20 ans et qui à l'issue de la guerre vont devenir des écrivains. Alors là-dedans, il y a Dorgelès, il y a Genevoix, il y a Céline, il y a énormément de gens. Hein, Gabriel Chevalier qui sera connu après pour Clochemer, là, une histoire de pissotière qui est très marrante, mais qui a écrit un livre sublime sur la première guerre qui s'appelle La peur. Et donc, j'avais surtout lu un bouquin qui m'avait vraiment fasciné qui s'appelle Les Croix de Bois. C'est un roman de Roland Dorgelès. Et je ne sais pas ce qui se passait dans ce bouquin. Il avait une manière sans doute de très bien véhiculer l'idée que ces jeunes gens étaient vraiment jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes soldats, je ne sais pas quel âge ils ont dans le bouquin, je ne l'ai pas relu, hein, mais ce sont des jeunes soldats. Mais j'avais 17 ans et je ne sais pas pourquoi je me suis identifié à cette jeunesse. voyez, j'avais l'impression que ça parlait un langage que je pouvais comprendre à l'âge que j'avais. Je me suis identifié et du coup, à partir de ce moment-là, la guerre est rentrée par la littérature, en fait, dans mon imaginaire. Et j'ai toujours dit, si un jour je fais écrivain, je ferai un truc sur la guerre de 14. J'ai toujours su ça. Bon, alors je suis devenu écrivain à 56 ans, j'ai pris le temps de la réflexion, hein, bon. Et puis j'ai tenu ma parole 5 ou 6 ans plus tard, mais c'était pas une parole jurée, vous voyez, je me suis pas immolé sur l'autel de la littérature pour écrire ça, mais c'est une guerre qui m'a toujours passionné beaucoup. Et quand je suis sorti de ma trilogie policière et que j'ai eu le choix de ce que je faisais, je me suis dit c'est le bon moment pour aller ausculter un petit peu ce qui se passe du côté de la Première Guerre mondiale. Voilà. Juste un mot encore, puisque je suis parti là pour faire une sorte d'acting out, hein, littéraire. Il y avait aussi un autre calcul qui était le centenaire. Le livre, je l'ai commencé en 2008. Donc il aurait dû être publié en 2009. 2009, il était complètement découplé, déconnecté de la commémoration. Puis pour des raisons de calendrier éditorial, j'ai pas pu finir ce livre-là, il a fallu que j'en finisse un autre. J'avais une commande pour le cinéma, enfin tout ça, ça a retardé. Et le bouquin, il a été prêt finalement en 2012. Et en 2013, ça tombait être le centenaire. Alors, je saurais jamais vraiment si mon inconscient avait perçu ça, que ce serait quand même plutôt le bon coup d'attendre 2 ou 3 ans pour profiter de la vague, ou si... avec une espèce de fraîcheur et de naïveté qui n'avait rien à voir avec l'âge que j'avais, hein, si simplement c'est un accident de calendrier. Alors moi, j'ai tendance à plutôt faire confiance à l'inconscient. Vous voyez, je pense qu'il a été un petit peu habile. Enfin, quand l'inconscient nous sert, vu ce qu'il nous emmerde d'habitude, moi je trouve qu'il n'y a pas trop à... Voilà, voilà.
Qui demande la parole ?
Voilà, c'est exactement le moment que je craignais. Vous voyez ça ? Là, c'est absolument terrible, monsieur.
Pardon. Qu'est-ce que vous pensez de Louis Guillaume, par exemple ? Et de, attendez, un autre, Denis Stehan, Un pays à l'aube.
Alors, qu'est-ce que je pense de Guillaume et de... Je suis en colère contre Guillaume parce que on m'a pas donné le prix Louis Guillaume. Non, mais je pensais que je le méritais. Ça va vous paraître vraiment immodeste, mais j'ai une grande passion pour Louis Guilloux. Et d'ailleurs, un des personnages de mon livre vient de Louis Guilloux, c'est pour ça que je vais vous en parler. Et ce livre-là était vraiment un hommage à Guilloux. Et je m'étais dit, vraiment, s'il y a un prix littéraire qui me ferait plaisir, je ne rêvais pas du Goncourt, hein, s'il y avait un prix littéraire qui me faisait plaisir, ça aurait été d'avoir le prix Louis Guilloux. On ne me l'a pas donné, alors j'ai fait un peu la tête, parce que je pensais qu'avec le livre que j'avais fait, j'étais vraiment dans les traces de cet homme-là. Je lui ai consacré des pages dans ce livre, et voilà, je trouvais que voilà, j'aurais bien aimé l'avoir, donc j'ai fait un peu la tête. Mais enfin, en fait, je suis fâché avec personne, vous imaginez. Il y a un personnage là-dedans qui vient directement d'un livre absolument sublime de Guillaume qui s'appelle Le Sang Noir. Alors Le Sang Noir est un roman très étrange, vous l'avez lu, hein, je pense. Hein. C'est un roman très étrange, c'est un roman qui se passe pendant la Première Guerre et qui a une particularité, c'est un très gros livre, et il se passe en une seule journée. Et il raconte l'histoire d'un professeur de philosophie ça se passe dans un lycée, hein, en classe de terminale, et ses étudiants l'appellent Cripure, parce qu'il parle de la critique de la raison pure, alors on l'appelle Cripure. En fait, il s'appelle Merlin, et c'est un type assez antipathique, assez arrogant, plutôt vulgaire, colérique, ombrageux, enfin vraiment, c'est pas un mec avec qui on avait envie de discuter. Mais il a quelque chose de plus que les autres, c'est un intellectuel, et il est en rupture par rapport à la Première Guerre mondiale dans un village où tout le village vit au rythme de la guerre, et lui a un côté très anarchiste dans son attitude à ses anti-guerres. Et ce personnage m'avait beaucoup plu, et j'ai eu besoin, là, dans ce livre-là, d'avoir un moment un vrai républicain. J'avais besoin d'un personnage qui allait représenter le pôle moral de l'histoire. C'est une histoire assez amorale que je raconte, hein. Bon. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, peut-être tout à l'heure je pourrais le résumer. Et j'avais besoin d'un personnage qui se dresserait un peu comme la statue du commandeur, tu vois, qui incarnerait la morale républicaine dans le livre. Et du coup, j'étais chercher Merlin. Et donc, j'ai gardé son nom par respect vis-à-vis de Guillou. Je n'ai changé que son prénom. Et d'ailleurs, à la fin, je le dis d'ailleurs dans les remerciements, tout à fait à la fin, c'est... Je termine sur ça. Si, voilà. Le personnage de Joseph Merlin, librement inspiré de Cripure, Est le signe de mon affection et de mon admiration pour Louis Guillaume. Voilà, c'est les derniers mots du remerciement que j'adressais. Donc vraiment, Louis Guillaume a été un homme très important dans ma vie littéraire, avec La Maison du Peuple, avec Coco Perdu, qui est un magnifique livre sur la vieillesse, avec Le Sang Noir. Il fait vraiment partie de mon panthéon personnel, Guillaume. Léane, ma relation est très différente avec Denis Léane. J'ai pas de relation personnelle, je connais pas cet homme. Hein. Je pourrais me vanter à peu de frais, mais c'est pas le cas. Léane est un immense romancier. Je n'ai pas lu le livre dont vous parlez. Je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Mais Léane, il m'intéresse beaucoup parce que c'est un romancier structurant. C'est-à-dire qu'il fait des histoires avec des structures extrêmement solides. Et j'ai eu une autre raison de l'admirer et d'aimer le travail de Léane, c'est la série américaine The Wire. Alors The Wire, c'est une série qui s'appelle Sur Écoute hein, en français, qui est une série absolument magique, d'une intelligence formidable, qui parle d'une ville qui était frappée par la crise, par le chômage, c'est la ville de Baltimore. Et donc, tout le roman se passe, la série se passe dans cette ville ravagée par la drogue, ravagée par le chômage, ravagée par la crise, et où des flics essayent de faire à peu près leur boulot dans un monde en naufrage total. Et The Wire a été une date pour les séries télévisées, parce que c'est la première série où, au lieu de demander à des scénaristes, on appelle des romanciers, et pas n'importe qui, Denis Léane, George Pelecanos, Richard Price, c'est-à-dire trois certainement des meilleurs auteurs de thrillers sociaux des États-Unis. Donc j'ai avec ces deux personnes une fraternité assez proche. Je revendique pas leur amitié, hein, mais je veux dire, je les sens très proches de moi. À défaut qu'ils soient proches de moi, au moins je suis proche d'eux. Voilà. Oui, peut-être que je peux dire un mot du livre, peut-être.
Bien sûr.
Ouais. Le livre raconte le retour de guerre, de deux jeunes soldats, Albert et Édouard, qui ressortent de la guerre passablement abîmés. Il y en a un qui a une gueule cassée, il a eu le bas du visage emporté, et l'autre est devenu paranoïaque après avoir été enterré vivant dans un trou d'obus et sauvé par son camarade. Donc on les voit revenir, en fait, le roman commence le 2 novembre 1918, on est à 8 jours de l'armistice, donc on est vraiment dans les tout derniers jours de la guerre, à un moment où plus personne n'a envie de se battre, hein. On sait que dans quelques jours ce sera l'armistice, c'est une question de détail, et on n'a pas du tout envie d'aller en découdre avec les Allemands, avec l'ennemi, parce que tout le monde joue la montre, d'ailleurs l'ennemi comme les Français. Bon, là, j'invente une petite histoire avec un officier qui oblige les soldats à monter au front, d'où mes deux héros vont sortir passablement abîmés. L'un va se faire emporter la moitié du visage et l'autre va devenir un peu dingue. On les retrouve dans l'immédiate après-guerre et en fait, je raconte la manière très compliquée dont ces hommes ont réussi à survivre et au fond sont passés d'une guerre à l'autre. Ils rentrent dans un pays en 1918-1919, ils rentrent dans un pays qui ne peut pas les absorber, l'ascenseur social est tombé en panne, il n'y a plus d'argent, en fait pour démobiliser ces gars c'est compliqué, il faudrait leur donner des vêtements, il n'y a plus d'argent, le pays est complètement ruiné, il faut les renvoyer chez eux dans un pays où il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de train, il faut leur retrouver du boulot dans un pays qui est rongé par le chômage. La France est endettée considérablement pour l'effort de guerre et saisie par une dette absolument abyssale. Donc le pays est complètement asphyxié, tétanisé, paralysé par la crise de l'après-guerre. Et donc ces deux soldats reviennent, essayent de retrouver de la place dans la société dans laquelle ils rentrent et ne retrouvent pas cette place. Alors comme je suis un auteur de romans policiers, j'invente une petite fiction. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher de l'argent et au fond, c'est pas un roman historique, c'est un roman picaresque. C'est-à-dire, c'est un roman qui essaye de montrer de quelle manière des gens qui viennent des classes les plus défavorisées de la société sont tenus face à une situation d'injustice sociale de devenir malhonnêtes pour réussir à survivre. En fait, le roman picaresque, c'est le grand roman de l'exclusion sociale. Et donc, je saisis un petit peu le roman picaresque par le bout des oreilles, là, dans ce livre, ce que je raconte, la manière dont ces deux soldats reviennent de guerre, n'ont pas de travail, pas de pension. Le ministère va mettre des mois avant de donner les premières pensions aux soldats qui sont revenus. Leur situation est très compliquée et donc ils vont s'enfoncer dans une arnaque. Il se trouve qu'à ce moment-là, en 1918-19, la France est saisie d'une ferveur commémorative sans précédent. On va ériger plus de 30 000 monuments aux morts en 3 ans. Certains dimanches, en France, on inaugure plus de 100 monuments. Et donc, ils ont une idée, ils fabriquent un catalogue de monuments, ils les vendent et ils se barrent avec la caisse. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un peu le thème du livre. Et donc, la question que j'essaie de poser, moi, avec mes moyens de romancier, c'est de dire, voilà, ils deviennent effectivement assez malhonnêtes. Mais enfin, la vraie question, c'est où est l'arnaque ? Qui a arnaqué qui, hein ? Voilà, donc en fait, si vous voulez, j'ai mis en exergue du livre la phrase d'Anatole France, hein, qui est la plus célèbre sur le sujet, hein, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du livre. Monsieur ? Bon.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le roman, il montre avec brillance justement l'horreur et les ravages de la guerre impérialiste où la classe ouvrière internationale finit en chair à canon pour le compte de la bourgeoisie. Et c'est intéressant de se poser la question aussi, de revenir un peu sur le début de la guerre. Parce que lorsque la guerre a commencé, a déclenché un énorme choc dans le mouvement ouvrier qui se scinda en deux. En fait, il y avait la social-démocratie qui rejoignit le camp de l'unité nationale qui se rangea derrière sa propre bourgeoisie, et puis de l'autre les révolutionnaires pour qui la classe ouvrière internationale devait se battre pour le défaitisme révolutionnaire. Et des dirigeants comme Lénine furent très choqués par l'ampleur des dirigeants du mouvement ouvrier qui se mirent au garde à vous devant leur propre bourgeoisie et déclara que la deuxième internationale était morte. Et historiquement, la social-démocratie a toujours soutenu à un moment ou à un autre sa propre bourgeoisie, soi-disant justement dans cette politique du moindre mal, ce qui signifie en fait la pierre politique pour la classe ouvrière, on voit à travers le roman. Et à cette occasion, il est intéressant de se poser une question sur un personnage qu'on entend souvent en France et qui fait l'unanimité, tant à gauche, y compris par lutte ouvrière, mais aussi à droite, c'est Jaurès, quoi. Jaurès, c'est traditionnellement, il est repris comme un modèle, quoi, pour les réformistes, pour mieux servir leur programme. Et justement, Lutte ouvrière a rappelé l'année dernière que...
Tu peux peut-être poser ta question sur le roman.
j'interviens sur la... C'est le thème de la Première Guerre mondiale, donc le sujet est vachement large, parce que le roman, il soulève plusieurs questions, donc... Donc voilà, Jaurès, il a été assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, il faisait partie de l'aile droite de la Deuxième Internationale pour trotskistes. Probablement, il aurait rejoint le camp de l'unité nationale. Donc aujourd'hui, voilà.
Non, mais c'est bien
sûr.
Non.
On va laisser. Donc, pour des dirigeants comme Zinoviev, qui ont écrit justement en 1916 dans Contre le courant, Jaurès avait falsifié des positions de l'international communiste dès 1907, justement, où, soi-disant, l'international communiste avait eu des positions sur la défense de la patrie, ce qui avait été absolument faux. Donc voilà, je veux détruire ce mythe.
C'est fait.
Qui est fait. Justement, mais bon, bon, voilà.
Merci. Non, mais moi, j'ai pas. Sur ça, j'ai pas compétence ni historique ni politique pour répondre. Enfin, d'ailleurs, il y a pas de question, mais pour prendre position. Non, mais pour prendre position sur ça. Ce que j'entends, je suis pas sûr d'avoir tout compris, hein. Parce que j'ai pas la culture. Non, c'est pas parce que ton discours était. Non, c'est pas parce que ton discours était incompréhensible. C'est parce que j'ai pas toujours les outils, moi. Tu vois, dans ma culture politique, je suis pas assez pointu pour comprendre tout ce qu'il y a derrière ce que tu dis. Ce que j'entends, c'est, je l'entends vraiment pas en romancier et je l'entends pas non plus en militant. J'entends, en tant que citoyen. C'est que, au fond, cette guerre a été une injustice dans tous les compartiments du jeu. Alors là, tu soulignes le compartiment sociopolitique du conflit, mais dans tous les domaines, ça a été une injustice absolument terrible et une guerre, exceptionnelle, qui n'avait jamais eu de prédécesseur et qui n'aura jamais de successeur. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé c'est pour ça que la question que tu poses, elle est, je trouve, d'autant plus intéressante que tu tournes autour d'un conflit qui n'a aucun équivalent de mémoire d'homme. C'est-à-dire que vous pouvez interroger l'histoire depuis l'Antiquité, il n'y a jamais eu une guerre comme celle-là, et il n'y en aura plus jamais. Non pas qu'il n'y aura plus de guerre, ça on va faire confiance au capital pour en fabriquer, c'est pas un problème. Mais une guerre comme celle-là, qui est la dernière guerre où on se bat encore à l'arme blanche dans les tranchées, hein, où les armes sont à la fois rudimentaires et déjà très technologiques. On inaugure là les premières armes de destruction massive, hein, ça s'appelle les gaz moutardes, mais c'est l'ancêtre des... Donc cette guerre, elle a une spécificité, notamment une spécificité énorme, elle dessine vraiment le passage au monde moderne. C'est une guerre technologique, une guerre industrielle, donc là on est vraiment au cœur du débat. C'est une guerre de l'argent pour l'argent, et c'est une guerre qui va avoir aussi un autre intérêt pour nous, c'est qu'elle va redessiner la carte de l'Europe totalement. En fait, à la fin de la guerre, il y a quatre empires qui vont être tombés dans la sciure. Et toute la carte géopolitique de l'Europe est redessinée dans les années qui vont suivre la guerre. Donc, c'est un tel bouleversement que pour en prendre la mesure, il faut, je crois, tu as raison, convoquer certainement à la fois la sociologie, la politique, l'analyse, etc. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que tu disais, mais j'entends en tout cas, moi, j'entends la légitimité qu'il y a à convoquer différents registres pour comprendre un phénomène qui s'analyse avec beaucoup de difficultés parce qu'il est un peu sidérant, quoi. Madame ?
Alors, si vous intervenez au nom d'une organisation, comme c'était le cas du camarade, merci de vous présenter.
Non, moi, j'ai lu le roman, j'ai énormément aimé. Je voudrais parler de deux personnages. Alors, la gueule cassée, elle vient quand même du milieu bourgeois.
Ouais.
Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est deux prolétaires. Non, non, il y a quand même...
Moi, j'ai pas dit que c'était deux prolétaires.
En tout cas, deux...
Non, j'ai dit que c'était deux malheureux.
Deux, voilà. Ouais. Mais elle vient quand même d'un milieu bourgeois. Et oui. Dont elle veut plus entendre parler, donc... Enfin, voilà, c'est compliqué, donc est-ce que vous pouvez dire un peu plus là-dessus ? Et puis sur le personnage de la petite fille, qui vient d'une certaine manière adoucir le roman, qui est un roman qui est passionnant, qu'on ne lâche pas une minute, mais qui effectivement est assez dur. Et c'est intéressant aussi, parce que moi je suis prof d'histoire, et je dirais que ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est l'après-guerre justement, parce que c'est pas des choses dont
on peut commencer par ça, sur l'après-guerre justement. Je vais essayer de bien revenir sur les deux questions que vous posez, mais cette question de l'après-guerre est assez intéressante. En fait, dans le langage courant, on a l'habitude de distinguer la guerre de l'après-guerre. Hein ? La guerre et après la guerre, c'est l'après-guerre. Et on a l'impression que Dieu a tourné le commutateur, comme ça. Bon, c'était la guerre, paf, on tourne le bouton et c'est l'après-guerre. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pas du tout comme ça que ça se passe. Et il y a un historien qui s'appelle Bruno Cabane, qui a été le premier, il y a quelques années, à inventer, à forger un concept historique qu'il appelle la sortie de guerre. Et en fait, la sortie de guerre, c'est, explique Bruno Cabane, une période qui suit la guerre, qui est en quelque sorte en tampon entre la guerre et l'après-guerre, qui est le moment où un pays tout entier doit se déprendre de la guerre. Et ce que démontre Bruno Cabane, c'est que, au fond, quand on a vécu 51 mois d'une guerre qui a mobilisé toutes les énergies, c'est très difficile d'un seul coup de se dire c'est fini. On est content que ce soit fini, on est soulagé. Mais en même temps, on ne peut pas tourner le commutateur facilement. Et ce que dit Bruno Cabane, c'est que dans ces années d'après-guerre, qui vont globalement aller de 1918 à 1922, à peu près 4 années, c'est au fond une sorte de révolution culturelle que l'ensemble du pays doit faire pour se déprendre de la guerre, c'est-à-dire apprendre à vivre sans la guerre. Ça s'appelle faire son deuil chez Freud. Bien. Mais avec une particularité, c'est que le deuil chez Freud, c'est s'habituer à la disparition d'un être qu'on a aimé. Et là, il faut faire un deuil à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut se déprendre de quelque chose qu'on a haï, mais avec lequel on a dû vivre, et qui nous a imprégné, qui est rentré dans notre vie, par tous les pores. Et que c'est long, et que c'est douloureux. C'est une révolution mentale, c'est une révolution affective, c'est une révolution sociale, c'est une révolution politique, c'est une révolution financière. Il faut tout remettre les compteurs à zéro. Et c'est très compliqué. Et le sujet du livre, c'est ces années-là où la France est incapable de recueillir ces enfants, ceux qui sont battus pour leur pays. On peut penser ce qu'on veut de l'engagement de ces soldats. Sauf qu'ils ont passé 50 mois, ils ont 20 ans, ils ont passé 50 mois d'une guerre, d'une barbarie inouïe. À Verdun, il va tomber en moyenne 6 obus au mètre carré. C'est-à-dire que dans la distance qui me sépare de monsieur, là, il va tomber une quinzaine d'obus. Comment des types ont pu survivre à ça ? C'est hallucinant. Bon, ces gars, ils ont fait leur guerre, ils reviennent, et tout ce qu'ils demandent, c'est un peu de reconnaissance. Ils demandent surtout de reprendre leur place dans le tissu social. Or, la France, à ce moment-là, est incapable de les accueillir, non pas parce qu'elle ne veut pas d'eux. Il y a une part de ça. Ces gens-là font peur. Les gueules cassées font peur. Les dingues font peur. Tous ces soldats, ils rappellent en permanence quelque chose qu'on a envie d'oublier. Mais surtout, il y a l'incapacité technique de s'occuper d'eux. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. On ne sait vraiment pas comment faire. Et c'est même tellement frappant qu'on n'arrive même pas à les démobiliser. Moi, je pensais que démobiliser, ça consistait à donner un billet de train à un mec pour qu'il rentre chez lui. Bah, pas du tout. Il faut qu'il passe une visite médicale parce que c'est ce qui permettra d'indexer la pension à laquelle il a droit. Il faut lui trouver un logement. Il faut lui trouver des vêtements. C'est très compliqué. Et ils sont plusieurs millions de soldats. Et donc, le pays C'est un bon diagnostic de l'incapacité du pays de s'occuper de ces jeunes gens qui reviennent. C'est qu'on ne peut pas les démobiliser et certains vont rester encore 8 mois, 9 mois sous les drapeaux. Et mon héros, là, justement, parle de ça. Lui, il reste 6 mois, 7 mois, 8 mois dans une caserne. On continue de les faire tourner en rond. Ils n'ont plus aucune utilité guerrière. Mais comme on ne sait pas comment faire pour qu'ils reviennent chez eux, on les garde et on continue de les faire tourner en rond dans une caserne qui ne sert plus à rien ni à personne. Donc voilà, c'est cette espèce d'après-guerre-là que je voulais montrer. Alors, vous avez posé une question sur le régime social des protagonistes. Bon, j'ai de manière assez classique un garçon qui vient des classes les plus modestes. Il est employé de banque, c'est un commis de banque. L'autre qui est le fils d'un banquier. Donc lui, il fait partie de la grande bourgeoisie propriétaire de l'époque. Puis j'ai un autre personnage qui lui fait partie de l'aristocratie ruinée et qui va essayer de retrouver sa place dans la France de l'après-guerre. Donc j'ai je balaye un petit peu avec ces trois-là une peut-être une espèce de spectre sociologique de ce qu'est la France de l'époque. Alors quand vous dites je ne suis pas sûr d'être trop d'accord avec vous quand vous dites il ne veut plus revenir chez lui, je pense qu'il y a chez Édouard, donc ce personnage-là, c'est le fils du banquier. Je pense que c'est un homme d'argent. C'est un artiste. Hein, c'est un homme très scintillant, très c'est vraiment un artiste pur, quoi. Hein. Donc il semble être déconnecté de la réalité. Sauf qu'il a été élevé par un grand bourgeois et qu'il a appris ce que c'est que l'argent. Et d'ailleurs, ils vont avoir tous les deux un conflit, hein, quand ils sont camarades. Mais quand il s'agit de discuter d'argent, ils ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils n'ont pas la même conception de l'argent. Il y en a un pour qui l'argent compte et l'autre pour qui l'argent n'a jamais compté. C'est-à-dire qu'il était passé de l'autre côté le moment où l'argent, il y en a tellement qu'il ne compte même plus. Et en fait, cette arnaque est inventée par cet artiste-là. Et au fond, qu'est-ce que le livre montre ? Il montre qu'il a beau être un artiste, il sait faire de l'argent. Ce que son père lui a appris n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein ? Monsieur ?
Personnellement, et puis d'autres personnes qui ont lu le livre, qui m'en ont parlé, c'est le début du surréalisme aussi. Et beaucoup ont trouvé le livre un peu surréaliste.
Oui, alors c'est gentil. Moi, j'aime bien les compliments. Hein. Ça me fait plaisir. Je vous cache pas. Je suis pas venu ici pour me faire insulter, mais. Vous avez tout à fait raison. Ce moment, c'est le dadaïsme. C'est le début du surréalisme. C'est le moment. Le surréalisme est beaucoup basé sur la découverte freudienne, hein, de l'inconscient. On va faire l'écriture automatique, on va essayer de faire agir l'inconscient. Et donc, j'avais garde effectivement d'oublier que c'était ce moment-là. Comme j'avais un artiste, je ne voulais pas en faire un surréaliste pur parce que ça me semblait vraiment une grosse ficelle et ça me semblait un peu lourdingue. Déjà, le livre, il fait 600 pages, il est déjà pas léger. Hein. Bon, donc je voulais pas en rajouter. Mais par contre, je m'en suis souvenu au moment où il fait des masques. Alors, je le dis pour les gens qui n'ont pas lu le livre, cette gueule cassée à cette petite fille, Louise, avec qui il va sympathiser et elle va lui fabriquer un premier masque et au fond ils vont tous les deux faire une espèce de surenchère comme ça progressive, tous les jours ils vont fabriquer de nouveaux masques et là j'ai beaucoup emprunté au surréalisme pour dessiner ces masques et savez-vous j'ai été les trouver ces masques, j'ai été les trouver au musée des arts premiers, hein, à Paris au Quai Branly où il y a des collections de masques africains et masques océaniens extraordinaires et tous les masques d'Orvar Lao viennent de ce musée mais parce que le surréalisme a beaucoup emprunté hein, aux masques africains et revenait vers ce qu'ils appelaient l'art brut hein, qu'on appelle aujourd'hui l'art premier, donc il y a un petit peu tout ce mélange là dans les choses. Alors je peux revenir, on a encore une seconde ou faut rendre le micro?
D'accord.
Alors j'avais oublié Louise, alors il y a une petite fille qui s'appelle Louise qui a 10 ans et qui est un peu mutique. Alors j'espère effectivement qu'elle amène un petit peu de soleil dans ce monde de brutes, hein, c'est comme ça qu'on dit. Alors, mon hypothèse narrative, c'était de faire un livre dans lequel personne ne serait sorti indemne de cette guerre. Et je crois qu'on peut regarder à peu près tous les personnages, aucun ne sort indemne de la guerre, y compris Merlin qui est rattrapé par la guerre, hein, qui ne l'a pas connu, qui l'a réprouvé, comme le personnage de Guillou, mais sauf que la guerre le rattrape. Bien. Et donc, je voulais que tout le monde... Je faisais l'hypothèse qu'il n'y a pas de rescapé. Une guerre de ce niveau-là, de barbarie, ne laisse personne indifférent et impacte tout le monde. Et donc, cette petite fille, je me suis posé la question de me dire, mais bon, une petite fille, est-ce que elle qui a 7, 8 ans, est-ce qu'elle peut être, elle aussi, une victime de guerre ? Et mon hypothèse, c'était qu'on pouvait. Et donc, j'en ai fait une petite fille qui a perdu son papa pendant la guerre. C'est juste une ligne dans le livre, mais c'est là. Et depuis, sa mère est devenue mutique. Elle passe son temps à regarder par la fenêtre. Et donc, il y a une petite fille qui est dans l'impact de la guerre. Au fond, cette petite fille est un grand blessé de guerre, au fond. Et elle trouve auprès d'Edouard, qui est une gueule cassée, quelqu'un qui a une blessure visible. Elle, sa blessure est intérieure. Et au fond, ces deux êtres, c'est très improbable hein, qu'ils se retrouvent, au fond vont s'étayer l'un sur l'autre et vont réapprendre en quelque sorte à vivre, chacun avec leur protocole et leur outil de transaction entre les deux vont être les masques. Mais cette petite fille, effectivement, j'avais vraiment très envie de montrer que, au fond, même si elle n'avait rien vu de la guerre, en fait, la guerre avait envahi son existence, même sans qu'elle l'ait véritablement compris, quoi.
Il y avait deux personnes ouais. par là.
Oui, petite question.
Ah ouais. Non parce que si t'as plus de voix et que t'as plus de micro, ça fait deux handicaps. Ouais, ça va aller.
Voilà, j'ai non seulement plus de voix, mais effectivement. Donc moi aussi, bien sûr, j'ai adoré ton bouquin. Et j'avais une petite question par rapport à, enfin, si tu veux, par rapport à la tonalité un peu là. Je trouve que j'ai lu après Cadre Noir et dont tu as parlé, hein, qui est un roman policier. Et j'ai retrouvé la même verve sociale dans les deux. Hein, effectivement, le Cadre Noir, ça traite de tout à fait autre chose, du chômage, d'un cadre qui perd les, hein, qui part un peu en sucette après ce qui lui arrive, touché par un plan de licenciement. Et bah, d'en revoir là-haut, il y a aussi ça. Et donc, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire de cette manière-là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, tu en as un peu parlé. Est-ce que tu nous as, décrit un petit peu les lectures qui ont marqué, ton ta jeunesse, ouais, et je suppose qu'ils, comme nous ont indignés, mais voilà, je voulais un peu savoir ce qu'il y a un peu derrière tout ça, quoi.
Ok. Alors moi, je suis pas un romancier à message, c'est-à-dire j'essaie de donner des histoires dont je me dis le lecteur est assez grand pour tirer la leçon lui-même. Je n'avance pas masqué, c'est-à-dire j'ai des convictions, j'avance pas masqué, hein, on peut pas me le reprocher, mais en même temps, je ne tire pas moi-même la morale de mes propres histoires. Hein. Alors, je suis content que tu parles de Cadre Noir, parce que c'est parmi mes romans policiers celui vraiment pour lequel j'ai le plus d'affection. Et je vais te raconter, alors pour te dire d'où ça vient, puisque tu poses la question sur l'origine, le truc est assez rigolo. Un jour, avec Pascaline, c'est le grand amour de ma vie, avec Pascaline, on écoute France Info, et j'entends que un DRH, pour tester le sang-froid de ses cadres, a organisé un jeu de rôle en forme de prise d'otage. Donc, il engage des comédiens, les mecs débarquent dans la salle avec des kalachnikovs, mettent tout le monde à plat ventre. Donc il y en a une qui pisse sous elle, l'autre qui veut se jeter par la fenêtre, parce que c'est tellement réaliste comme truc et c'est d'une violence inouïe. Et on leur dit un quart d'heure après, mais non, c'était pour rire, c'est pour jouer, c'était juste pour tester. En fait, c'était efficace. Peut-être pas rigolo, mais c'était vachement efficace, hein, parce que ça nous a vraiment permis de voir comment vous allez réagir devant le stress. Ça se passait ça à la régie de France Télévisions. C'est-à-dire dans une régie proche du secteur public. Bon, boîte privée, mais étayée et nourrie et fabriquée par le service public. Bien. Donc, moi, quand j'entends ce truc-là, je dis tout de suite, là, il y a un roman policier, là, il y a une bonne histoire. Et donc, on reste à l'écoute du truc qui disparaît des ondes. On lit quelques jours plus tard un petit entrefilet dans le Canard enchaîné, mais ce truc-là ne fait pas un scandale. Et donc, j'ai très peu de choses... sur ça, j'ai pas d'événement, ça n'était pas encore jugé, ça sera jugé 2 ans plus tard en cour de cassation, le type sera condamné, etc. Et donc, je me dis, bon, je vais essayer de fabriquer une fiction là-dessus. Et donc, je raconte l'histoire d'un homme de 57 ans qui est au chômage de longue durée, qui n'a plus aucun espoir de retrouver du travail à 57 ans, et qui en a fait son deuil. Alors, il fait des petits boulots, il fait le Père Noël dans la supérette du bas de chez lui... Il n'a pas tout à fait payé son appartement, donc du point de vue du fric, c'est tendu. Il ne sait pas s'il va pouvoir aller au bout de son crédit. C'est une situation bien compliquée. Il continue malgré tout d'envoyer son CV. Et un jour, son CV est retenu. Et d'un seul coup, il a l'espoir de retrouver du boulot. Et donc là, il sent que c'est le moment de la dernière chance. Et on lui propose de mener une prise d'otage. En fait, il est DRH. Hein, son métier, c'est d'être responsable des ressources humaines. Et on lui dit, voilà, si vous aurez le boulot si vous organisez ça. Et lui, il dit, ok, d'accord, j'y vais. Sa femme, elle, qui est le pôle moral de ça, dit, attends, tu ne peux pas faire ça, c'est immoral. On ne peut pas faire ça. Il dit, écoute, la morale et le boulot, c'est deux choses. Hein, et moi, je suis pragmatique, j'ai besoin de boulot. Et là, je ne vais pas laisser passer ma chance. Et donc, je raconte de quelle manière cet homme va, en quelque sorte, partir en torche. C'est-à-dire, il va, au bout d'un moment, être lancé dans une lutte dont il ne voit même plus lui-même l'objectif. Hein, ce qui est le propre de la névrose obsessionnelle. C'est-à-dire, on court après un truc, mais au fond, au bout d'un moment, on continue de courir, mais on ne sait plus après quoi. Hein, c'est-à-dire que la course a pris la place de l'objet. Hein, bon. Et donc là, en l'occurrence, Alain Delambre, au bout d'un moment, il court, mais en fait, ce que j'essaie de voir, c'est de quelle manière il va sacrifier une grande partie de ce qu'il aime uniquement pour trouver un travail que d'ailleurs il n'aura pas. Hein, bon. Donc c'est un thriller, mais il vient vraiment d'un fait divers. Et moi, ma source, pour revenir sur la question que tu poses, c'est pas tellement mes opinions politiques, c'est pas tellement ma vision sociale. Elle passe dans le traitement des personnages, mais elle déclenche pas les envies d'écriture. Disons simplement qu'au moment où j'ai une bonne histoire, alors à ce moment-là, effectivement, ce qui est convoqué, c'est ma vision du monde, et ma vision du monde, on la trouve aussi bien dans Cadre Noir que dans ce livre-là. Sur ce point-là, je pense que le parcours il est politiquement cohérent, mais c'est vrai que je suis pas un romancier militant. Je suis un romancier.
Il y avait quelqu'un. Anne, ici.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, comme vous évoquez la maladie mentale d'un de vos personnages, ouais. J'aimerais savoir si vous avez une idée, je suppose que vous êtes documenté sur l'ampleur justement des soldats qui sont revenus malades, psychiquement incurables, etc. Et quels sont les dispositifs thérapeutiques qu'on a développés à leur égard? Parce qu'à un moment, on a bien dû s'occuper d'eux, j'imagine. Ouais, ouais. Peut-être certains n'ont pas...
Alors, vous avez raison, parce que la Première Guerre mondiale est la première guerre pour laquelle les maladies psychiques, les traumas psychiques vont être reconnus comme étant cause de guerre et donc valant pension d'invalidité. C'est la première fois. C'est pas la première fois qu'il y avait des dingues qui sortaient de la guerre, qui sortaient dingues de la guerre, mais c'est la première fois qu'on en a fait la reconnaissance. Donc, sur le plan social, c'est un pas considérable. Il a fallu vraiment qu'elles fassent tellement de fous qu'on ne pouvait même plus les ignorer, qu'il a fallu les pensionner et reconnaître que leur trauma était dû à la guerre. Alors, si vous regardez la documentation, il y a des choses assez extraordinaires. Il y a des hommes qui sont atteints ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils n'ont aucune affection neurologique répertoriée à l'époque. Alors, on n'a pas le scanner, mais avec les moyens qu'on a à l'époque, on ne trouve pas de lésions neurologiques patentes qui justifieraient leur comportement. Et ces gens-là tremblent de la tête aux pieds. C'est-à-dire, comme si un jour ils avaient pris peur et que la peur avait envahi leur être et n'en sortaient plus. La peur est enfermée en eux. Alors, c'est des films qu'on trouve sur la banque d'images de l'INA qui sont vraiment bouleversantes, quoi. Vous avez l'impression que ces gens-là sont en perpétuel état de guerre. C'est extraordinairement bouleversant. Alors, je ne peux pas vous dire, moi, ce qui se passe du point de vue des soins, mais on a quand même, enfin, j'ai quand même un ou deux indices, notamment sur les gueules cassées, puisque la guerre va aussi inventer la chirurgie réparatrice. On a beaucoup de gueules cassées dans cette guerre, pour une raison simple, hein, qui est une raison balistique, c'est que les armes de l'époque, ce qu'on appelle les shrapnels, sont des armes qui balayent le sol à peu près à hauteur d'homme, à environ 1m70, 1m90 du sol, et donc frappent à peu près au niveau de la tête. C'est la raison pour laquelle dans cette guerre, il y a beaucoup plus de gueules cassées que dans toutes les autres guerres. Parce que cet armement-là, pendant cette période-là, a cette particularité d'avoir une ligne de flottaison qui est à peu près au niveau du visage des hommes. Donc c'est une guerre qui a fait un nombre de blessés faciaux absolument considérable. Et donc du coup, la chirurgie va s'emparer de ça et on va faire les premières greffes de peau, on va faire de la chirurgie réparatrice. Alors évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît barbare. Parce que si vous regardez les photos, vous vous dites... C'est hallucinant, quoi. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge, mais c'est vrai qu'ils avaient des outils de réparation à la hauteur de ce qu'était la médecine en 1920, c'est-à-dire très rudimentaire dans ce domaine-là. Et donc, on a l'impression qu'au fond, avec des gueules cassées dévastées, ils ont fait simplement des gnomes à peu près supportables. Hein. Mais c'est des types qui ont des têtes absolument épouvantables. Et pendant c'est marrant parce que pendant l'écriture du livre, il y a un souvenir d'enfance qui remontait. J'habitais à Aubervilliers. Moi, je suis né à Aubervilliers. Et j'ai vécu toute mon enfance entre Aubervilliers et Drancy, hein, c'est ma région. Et quand on sortait avec ma mère de l'immeuble d'Aubervilliers, je me rappelle que je la tirais très loin pour faire un grand détour. Et parce qu'il y avait là, dans une guérite, une gueule cassée de la guerre de 14 qui vendait des billets de loterie. Comme l'État n'avait pas du tout d'argent, il avait donné le monopole des billets de loterie aux gueules cassées et aux anciens combattants pour qu'ils aient un petit job. C'est ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, hein, à l'époque. C'est ça, à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient juste de quoi être sur la ligne de flottaison de la pauvreté. Hein. Et donc, ce type, il vendait des billets de loterie dans une petite guérite qui ressemblait, vous savez, aux guérites des soldats qui sont devant les ministères. Et en fait, il vendait des billets de loterie. Et moi, j'avais peut-être 10 ans, il me terrifiait complètement, cet homme. Ce brave homme qui avait eu le visage à moitié emporté avait été réparé, mais la réparation faisait peur. Enfin, c'était absolument Frankenstein, hein, vraiment. Et du coup, quand je me suis souvenu de ça, j'ai fait une autre hypothèse par rapport aux blessés de guerre, qui était que, bien sûr, la France ne pouvait pas économiquement s'occuper d'eux comme il aurait fallu, mais je pense en plus que ces gens, je vous ai dit tout à l'heure, ils faisaient peur, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le retour de ces hommes a été rendu difficile, pour des raisons sociales, politiques, financières, économiques, etc., mais je crois aussi pour des raisons qui sont plus profondes, qui ont à voir avec la peur de la confrontation à la souffrance que représentaient ces hommes, je crois.
Oui, il y avait quelqu'un qui me posait une question.
Alors, oui, vous avez employé, lorsque vous avez parlé un petit peu, vous avez dit que vous n'étiez pas un romancier militant, et vous avez employé l'expression de pôle moral quand vous désignez certains de vos personnages. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous parler un peu de comment vous voyez le militantisme? Enfin, vous êtes ici avec nous, l'engagement par rapport à votre métier de romancier, et au départ, vous aviez parlé de quelque chose qui avait l'air intéressant, l'illusion romanesque. Est-ce que vous pourriez aussi aborder un petit peu ça?
Bon, je me doutais bien qu'on finirait par aborder les sujets qui fâchent. Non, mais vous avez raison de dire je suis parmi vous et la question est légitime. J'espère que ma réponse va l'être également. Quand je dis que je ne suis pas un romancier militant, c'est que je ne fais pas des livres pour dire ce que je pense du monde. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ma vision du monde, elle est véhiculée par mes histoires. Mes histoires, ce sont les histoires que j'ai envie de raconter, mais elles ne sont pas a priori dirigées, si je faisais une démarche téléologique, hein, c'est-à-dire je partais du début, enfin de la fin pour remonter au début, c'est pas parce que j'ai un message que je fais un livre. J'aborde une situation, par exemple politique, comme dans Cadre Noir, et je sens moralement qu'il y a quelque chose. J'ai pas les outils politiques pour en faire l'analyse, mais je suis un homme de gauche, je suis un homme engagé dans ma vie, et je l'étais avant le prix Goncourt et je continue de l'être après, puisque vous voyez, je viens très très fraternellement à votre invitation. Donc je suis un homme qui n'avance pas masqué. Mais quand je dis que je ne suis pas militant, c'est que mon travail ne consiste pas à écrire des romans pour véhiculer ma vision du monde. C'est pas ça que je fais. C'est, j'essaie de donner à réfléchir en fonction de la vision du monde que j'ai. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ou alors, des livres comme Cadre Noir, j'en aurais fait 6, alors que j'ai des romans plus psychologiques dans lesquels l'aspect social n'est pas dirigeant dans la narration. Donc il y en a, comme celui-ci, où l'aspect social est prépondérant, et puis d'autres dans lesquels c'est plutôt l'aspect psychologique, familial. Et donc, si j'étais vraiment un écrivain militant, j'écrirais sur mon militantisme, mais ce n'est pas le cas. Alors, le pôle moral, vous avez raison de souligner ce truc-là, parce que moi-même, je ne suis pas très, très satisfait de l'expression de pôle moral. Je comprends très bien la question que vous posez, et je pense qu'elle est assez justifiée. Moi, je suis un républicain. Donc, quand dans ce livre-là, il m'a semblé qu'il y avait un manque du côté de la présence de la République dans cette histoire, je me suis interrogé pour savoir quel personnage allait pouvoir le porter. Et au fond, mon indignation était de caractère moral. Après, le traitement, il est politique. Je fabrique un homme qui vient d'un ministère, il est là pour enquêter, en fait, il est comptable des deniers publics. Hein, c'est un républicain, et il est surtout comptable en tant que républicain de l'égalité de traitement des hommes devant la loi. Voilà. Et donc ça, c'est le pôle politique. Mais j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'utilise le terme de morale, et j'espère que vous aurez entendu les guillemets que j'y mets, c'est qu'à l'origine, quand je fabrique ce personnage, je ne le fabrique pas pour des raisons idéologiques. Je le fabrique parce que j'ai moralement quelque chose qui me choque dans ma morale républicaine. Vous voyez, alors évidemment, morale républicaine, c'est toujours ça fait un peu mélange des genres. J'essaie d'en rendre compte de cette manière-là. Il y avait une deuxième partie de la question, pardonnez-moi.
L'illusion romanesque.
Sur
l'illusion romanesque.
Ah oui, alors ben ça va me permettre de répondre à la dame tout à l'heure qui a posé une question sur la documentation. Je me suis beaucoup documenté sur cette guerre, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, la documentation me servait d'anxiolytique. C'est-à-dire qu'en fait, elle reculait le moment de me mettre au boulot, hein, et j'accumulais les livres, et puis je ne pouvais pas vraiment commencer tant que je n'étais pas au point. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là maintenant, tu te sors les mains des poches et tu te mets au boulot. Donc j'ai posé la documentation par terre et je me suis colleté au livre. Alors, j'ai par rapport à ça, par rapport à la documentation et l'exactitude et tout ça, une relation assez lâche. C'est-à-dire, je ne compte pas les boutons de guêtre et je l'exactitude ne m'intéresse pas. Alors je sais que j'ai des confrères, des camarades, des collègues pour qui le truc compte beaucoup. Et moi, je préfère l'illusion romanesque. Alors je vais vous dire en deux mots, je regarde l'heure hein, parce qu'on doit rendre le micro aux copains qui sont après. C'est que en fait, mon idée est la suivante. Si j'écrivais des documentaires, il faudrait certainement que tout soit parfaitement exact et que je ne puisse rien avancer dans mon livre dont je ne puisse dire qu'il a une source documentée, historique, indiscutable. Bon. Donc c'est un énorme travail. Ça demande un travail historique et moi je suis un romancier, encore une fois. Donc ce travail, je le fais parce que je ne veux pas tordre l'histoire. Je ne veux pas que la vérité historique en souffre. Et si un historien était venu me voir en me disant la description que vous faites de ce qui se passe en France dans les années 20 et ce qui est dans les têtes n'est pas du tout synchrone avec ce que nous en savons, j'aurais été assez vexé, pour tout dire, même un peu blessé. Donc je fais attention à la vérité romanesque, à la vérité historique, pardon, parce que si vous vous affranchissez complètement de la vérité historique, vous pouvez aussi bien devenir un écrivain révisionniste, au fond, puisqu'il n'y a plus de curseur qui vous dit qu'à partir de là, vous ne devez pas inventer que c'est une faute morale. Au fond, d'un seul coup, vous pouvez tout dire. Bon, vous voyez, bon. Donc des choses qui seraient inconciliables avec ce que je suis. Bien. Donc, pour moi, la vérité historique, c'est un concept moral. C'est-à-dire, il y a un moment où j'estime que moralement, je ne peux pas aller au-delà. Ça ne serait pas bien dans mon échelle de valeur. Et donc, je reste en deçà. Mais l'illusion historique, justement, c'est quelque chose qui me sert à travailler. C'est-à-dire, mon idée est la suivante. Je dis à mes lecteurs, vous êtes en 1920. Bien. Comment ils le voient qu'on est en 1920, le lecteur, la lectrice? Ils le voient avec des indices. Au fond, la marque d'une voiture, la manière dont je décris des vêtements, le mec, il prend le trolleybus plutôt que de prendre... Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle des marqueurs romanesques qui créent une illusion historique. Et mon idée, et c'est là-dessus que fonctionne presque tout le livre, c'est que si vous parsemez les indices de manière suffisamment convaincante, c'est-à-dire que ce sont les bons indices placés au bon endroit, votre lecteur est en 1920. Après, c'est un boulevard. Sauf erreur, c'est-à-dire si d'un seul coup il consulte son iPhone, il y a un vrai problème. Là, le lecteur, il va retomber du nuage. Mais si je ne fais pas d'erreur avec des anachronismes trop criants, au fond, l'illusion romanesque que j'ai créée, elle fonctionne. Et moi, je préfère, parce que je suis un romancier, un homme d'illusion, je ne raconte que des histoires qui n'existent pas et des personnages qui n'existent pas. Donc, je suis un illusionniste. Ça me paraît plus être mon métier que la documentation historique. Donc, je me tiens entre les deux. La documentation, oui, parce qu'il y a un pôle moral au-delà duquel j'ai pas envie de faire des contre-vérités historiques qui me feraient moi-même douleur sur le plan moral. Mais en même temps, je marque-boute pas sur l'exactitude historique parce que mon travail consiste à créer une illusion. Et si l'illusion fonctionne bien, vous pouvez être en 1920 pendant 600 pages, même si au milieu, il y a des anachronismes. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit en disant, vous voyez, je sais pas, tel type de voiture n'existait pas, ou, ouais, bon, d'accord, n'existe pas, ok. Bon, alors, je corrige, hein, parce que je me trompe pas exprès. Donc, moi, si on me le signale, là-dedans, dans l'édition de poche, j'ai corrigé plein de trucs qui étaient pas justes. Hein. Puis alors, les lecteurs, les historiens, je les crains pas, mais les lecteurs... Ah ouais, ouais. Ah non, mais non, je vous assure. Le pire, c'est le lecteur qui est un historien amateur. Vous voyez ça? Alors ça, non, mais ça, c'est absolument terrifiant. Vous voyez, c'est le type qui vous écrit en vous disant, vous comprenez, page 42, vous écrivez un truc. Alors, bon, vraiment, ça me sidère. Puis, alors, le pire, c'est encore dans les là, j'espère qu'il n'y en a pas, parce que peut-être qu'il y en a un qui va se lever, qui se lève comme ça du fond de la salle. Hein, j'ai généralement un homme de 57, 58 ans qui brandit un truc, c'est une coupure qu'il a gardée dans le seul but de m'emmerder. On a l'impression qu'il l'a trouvé dans Paris Presse des années 50 et puis il l'amène juste pour me gâcher ma vie. Mais non, je ne fais pas exprès de me tromper. Et quand je me trompe, je le reconnais et quand je peux le corriger, je corrige. Mais disons que je ne veux pas que tout mon temps, toute mon énergie passe dans la documentation parce que je suis un illusionniste et que je dois créer l'illusion que vous êtes en 1920 et que voilà, j'essaie de faire mon job le mieux que je peux. Mais je marque-boute pas sur la vérité. Voilà. Bien. Ça va, on n'est pas trop long là.
Non, une dernière, non. Dernière question. Merci à vous.
La dernière, d'accord.
Ça tombe bien pour la dernière. Le prochain roman, est-ce que vous continuez sur la littérature ou est-ce que vous retournez un peu dans le sous-genre littéraire?
est-ce que je suis un homme de sous-genre? Alors, mon prochain roman, ça sera une série sur Canal+. Non, mais je vais vous dire, vous savez, c'est très intime là, la discussion qu'on a. Il n'y a pas d'emmerdeur. Donc, faire le post Goncourt, c'est un truc qui est difficile parce que vous êtes attendu au tournant, surtout quand vous avez eu un succès populaire important. Donc, franchement, mon prochain bouquin va être accueilli. Vous voyez, faut pas que je me fasse trop d'illusions sur la générosité ni de la presse ni des professionnels. Vous voyez, ça va, à mon avis, assez mal se passer. J'ai regardé ce qui s'est passé sur 20 ans de Goncourt et je ne dois pas me tromper parce que la statistique est à peu près unanime. Donc, je vais avoir un moment difficile. Vous voyez, donc, il va falloir que je rassemble mes forces. Et donc, je me suis dit qu'au fond, ce que j'avais gagné avec le Goncourt, c'est le droit maintenant de faire un peu ce que je veux. Hein, j'ai gagné du temps. Et donc, je peux employer mon temps avec plus de liberté qu'avant. Canal+ m'a dit, est-ce que vous voudriez écrire une série noire pour nous? J'ai dit, oui, c'est un truc que j'avais jamais fait. Donc, je suis en train d'écrire une histoire policière. Donc, vous voyez, je renoue avec le sous-genre, qui est une histoire policière qui serait normalement, si tout va jusqu'au bout, hein, ça peut s'arrêter pour plein de raisons, qui sera 8 fois 52 minutes et qui raconte une histoire policière et qui est basée beaucoup sur les nouvelles technologies.